RadioAfrique.com et sur ses plateformes.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 28 juin 2024. Les candidats à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden et Donald Trump, ont tenu hier soir leur premier débat télévisé. Le thème dominant était l'immigration. Dans ce journal, Alexandre Nolognon, envoyé spécial à Atlanta, reviendra sur les moments forts. En France, dernier jour de campagne aujourd'hui pour les législatives de dimanche. En Mauritanie, près de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes samedi pour élire leur président. En Afrique du Sud, des tensions retardent l'annonce d'un gouvernement.
L'ANC a réduit le nombre de sièges offerts au DA à seulement 5, en tant que le DA avait demandé 8.
L'universitaire André Thomas Hausen va nous préciser les points d'achoppement dans la partie magazine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. On reviendra sur la nouvelle concernant le débat tout à l'heure. Le président français Emmanuel Macron a promis de donner des consignes de vote clair en cas de duel au second tour des législatives entre la gauche et le parti d'extrême droite, le Rassemblement national, présenté comme le grand favori du scrutin. La campagne s'achève ce soir à minuit. Le point avec Eric Manirakiza.
Tous les sondages donnent une avance très confortable au Rassemblement national, crédité de 36 à 37% des intentions de vote et qui distance ainsi largement la gauche, 28 à 29%, tandis que la majorité sortante est reléguée à la troisième place, 20% à 21%. Le chef de file du Rassemblement national, Jordan Bardella, 28 ans, devra néanmoins séduire davantage d'électeurs s'il veut obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale à l'issue du second tour le 7 juillet, condition qu'il a lui-même posée pour accepter le poste de Premier ministre. Jeudi soir, à marge d'un sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron a promis une grande clarté dans les consignes de vote pour le second tour en cas de duel entre le Rassemblement national et la gauche. Une forte participation qui pourrait être la plus élevée depuis 25 ans est attendue dimanche. Près de 2 électeurs sur 3 prévoient d'aller voter.
La Russie a menacé ce vendredi les Occidentaux de confrontations directes à cause de l'intensification des vols de drones militaires américains en mer Noire au large de l'Ukraine, quelques jours après de premières menaces visant Washington à la suite d'une frappe en Crimée annexée. Les vols de drones américains en mer Noire multiplient la probabilité d'incidents dans l'espace aérien avec les avions des forces aérospatiales russes, ce qui augmente le risque d'une confrontation directe entre l'Alliance Atlantique et la Fédération de Russie, a dénoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Quelques 61 millions d'Iraniens votent ce vendredi aux urnes, votent ce vendredi pour la présidentielle. Cette élection a dû être organisée dans la hâte après la mort du président Ibrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère le 19 mai. 4 candidats, des hommes quinquagénaires et sexagénaires, sont en lice. Si aucun d'entre eux ne rassemble plus de la moitié des suffrages, un second tour se tiendra le 5 juillet. Les résultats officiels sont attendus au plus tard dimanche, mais des estimations devraient être publiées demain samedi. On va à l'actualité africaine. En Mauritanie, l'élection présidentielle est prévue demain samedi, opposant 7 candidats, dont le président sortant, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. La campagne électorale s'est achevée la nuit dernière. Mohamed Oumfa.
La campagne s'est globalement passée dans le calme, même si des incidents ont éclaté lundi soir à Ouagadougou dans le nord, lorsque certains partisans de l'un des candidats s'en sont pris à un meeting de supporters d'un autre concurrent, a rapporté le ministère de l'Intérieur dans un communiqué sans plus de précision. Le candidat Biramda Abeid, deuxième lors des 2 dernières présidentielles, a clôturé sa campagne dans cette ville du nord de la Mauritanie. L'ampleur de mon meeting signe la fin du régime de la corruption et de la gabégie, a-t-il déclaré. De son côté, le candidat islamiste du parti Tewassoul, première force d'opposition au Parlement, Hamadi Ould Mohamed El Mokhtar, a mis en garde contre la fraude lors de son dernier meeting à Nouakchott. Le président sortant et grand favori, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a promis la victoire à Nouakchott après avoir mené campagne dans toutes les régions. Les forces de l'ordre sont prêtes à faire face à toute velléité de désordre, la sécurité étant la priorité des Mauritaniens, a-t-il déclaré.
La RDC exclut de négocier avec le Rwanda, accusé de soutenir la rébellion du M23 dans l'est du pays, mais a réclamé contre Kigali des actions fortes et des sanctions ciblées. Je pense que le chef de l'État a été clair, nous n'allons pas négocier avec ceux qui nous agressent, a déclaré jeudi la première ministre congolaise Judith Sumiwatuluka en visite à Goma, le chef-lieu du Nord Kivu. Le président de l'Angola, João Lourenço, a déclaré hier que des négociations étaient en cours pour organiser très prochainement une rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi, ses deux homologues rwandais et congolais, afin de parvenir à la paix dans l'est de la RDC. Les combats se sont intensifiés ce vendredi dans l'est de la République démocratique du Congo entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 dans le secteur de Kanyabayonga, ville stratégique du front nord du conflit situé à une centaine de kilomètres au nord de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, elle-même encerclée par les rebelles soutenus par le Rwanda. Kanyabayonga est considéré comme un verrou contrôlant le nord. Vers le nord, les accès aux villes de Butembo et Beni, fief de l'importante tribu Nandé et grands centres commerciaux du pays. La ville compte plus de 60 000 habitants auxquels se sont ajoutés ces derniers mois des dizaines de milliers de déplacés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité américaine, le président Joe Biden et l'ancien président Donald Trump ont tenu un premier débat présidentiel jeudi soir à Atlanta en vue des élections de novembre. Nous y reviendrons dans un instant. Au Kenya, après avoir réussi à forcer le gouvernement à renoncer à 2,7 milliards de dollars de hausse d'impôts, les jeunes activistes kenyans visent plus haut en s'attaquant à la corruption et à la mauvaise gouvernance. Les manifestants estiment que le projet de loi des finances que le président William Ruto a abandonné mercredi n'est qu'un symptôme des problèmes qui affligent un pays où de nombreux jeunes ont peu de perspectives d'emploi malgré une forte croissance économique. Le mouvement devra également décider comment répondre à l'offre de dialogue du président William Ruto faite mercredi, mais sans précision. OCHA met en garde contre les conséquences catastrophiques de l'insécurité alimentaire dans le nord du Nigeria en l'absence d'une intervention immédiate. L'Agence humanitaire des Nations Unies a du mal à trouver des financements pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans la région. En avril, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a lancé un appel de fonds de 306 millions de dollars aux côtés du Nigeria en faveur de 2,8 millions de personnes dans les États de Borno, Adamawa et Yobe, région ravagée par une insurrection islamiste qui dure depuis 15 ans pendant la période de soudure, période où la pénurie alimentaire est la plus forte. Et le président Joe Biden et l'ancien président Donald Trump ont tenu un premier débat présidentiel jeudi soir à Atlanta en vue des élections de novembre. Un florilège de sujets a été abordé lors de cette première confrontation. Après le débat, Alexandrine Ologno a interrogé un père de famille à la fin du débat. Il se nomme Moumine Yaro, c'est un Ivoirien. Il nous fait part de ce qu'il a pensé de cette confrontation entre Biden et M. Trump.
C'est un très bel exercice. Pour nous, Africains, nous ne sommes pas habitués à ce genre d'exercice. Et je pense que c'est une opportunité pour nous d'apprendre ce que c'est que la démocratie.
Que pensez-vous de la réponse des deux candidats sur les différents thèmes qui ont été abordés au cours de ce débat?
Bien qu'étant immigrant africain, je suis américain effectivement. Et chaque année, je me livre à cet exercice-là de désigner mes candidats, tant au niveau national qu'au niveau local. Donc c'est un moyen pour moi ici d'évaluer mes candidats. Je n'ai pas de coloration politique. Je choisis celui qui a une bonne approche des questions qui sont importantes. Pour moi, l'immigration, c'est très important. En tant qu'Africain, on a vu ici un pays où l'immigration a été vraiment très dure envers les Africains. On n'a pas donné des opportunités réelles aux Africains de venir aux États-Unis comme les autres qui sont venus de l'Europe et de l'Asie et des autres contrées. Et on pense toujours que l'Africain vient ici pour profiter des choses et ne rien donner. Au contraire.
Lors du débat, j'ai remarqué que vous essayez d'expliquer ce que c'est à votre fils et lui rappeler aussi certains faits liés à l'actualité américaine. Est-ce que c'est important pour vous que votre fils s'intéresse à la chose politique et puisse comprendre comment cela fonctionne ici aux États-Unis?
Effectivement, moi-même je m'intéresse à la chose politique et j'aimerais bien que mon fils s'y intéresse. Voilà pourquoi est-ce que je lui donne ces instructions-là à bas âge, pour qu'il comprenne déjà le jeu démocratique, pour qu'il comprenne qu'il faut être un leader. Je lui enseigne être un leader et je lui enseigne aussi comment servir la communauté. À part entière, il peut être président des États-Unis. On a vu Barack Obama et toute la famille aussi l'appelle Barack Obama, le futur président des États-Unis. Donc pourquoi pas ne pas commencer à cet âge-là à s'intéresser à la nation.
C'était Moumouni Yaro, ivoirien, qui nous fait part de ce qu'il a pensé de la confrontation hier entre le président Joe Biden et son prédécesseur à la Maison-Blanche, Donald Trump.
Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nathalie Barge.
Le troisième forum de l'OPEP sur le développement des fonds s'est conclu à Vienne hier. Les partenaires ont promis de s'attaquer aux problèmes urgents tels que la sécurité alimentaire et la transition énergétique. Le fonds OPEP a annoncé un financement de 585 millions de dollars. Un don initial de 3 millions permettra d'amorcer le mécanisme qui vise à catalyser 500 millions de dollars d'investissement d'ici 2030 et qui débutera par des initiatives pilotes en Afrique subsaharienne. Africa Finance Corporation a annoncé un prêt de 150 millions de dollars à la compagnie minière Kamoa Copper pour l'expansion de Kamoa Kakula en République démocratique du Congo. Cette grande mine de cuivre de 3 ans va augmenter sa capacité de production de 33% à plus de 600 000 tonnes par an. La troisième phase de développement prévoit la construction d'une fonderie avec une capacité de 500 000 tonnes d'anodes de cuivre pur à 99%. La société télécom MTN Ghana a lancé une mise à niveau de son réseau pour réduire les émissions de carbone. Le groupe MTN compte réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2040, soit 10 ans avant les prévisions de l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Basketball avec la draft NBA, Ulrich Chomche entre dans l'histoire.
Oui, le Camerounais de la NBA Academy Africa, centre d'entraînement de basketball d'élite à Sali au Sénégal, a été sélectionné 57e par les Memphis Grizzlies lors de la draft NBA et transféré aux Toronto Raptors. Ulrich Chomche devient ainsi le premier prospect de la NBA Academy Africa à être repêché par la NBA. Il entre aussi dans l'histoire en tant que premier prospect des 3 académies de la NBA situées au Sénégal, au Mexique et en Australie à être repêché directement par une académie de la NBA. Il devient par ailleurs le premier joueur à être recruté après avoir participé à la Basketball Africa League. Chomche avait rejoint la NBA Academy Africa en 2019 à l'âge de 14 ans.
Les nouvelles de la Copa América réduites à 10, les États-Unis chutent face au Panama.
Bien qu'ayant ouvert le score, Team USA s'est incliné à Atlanta face au Panama 2-1 lors de la deuxième journée de la phase de groupe, mise en difficulté par l'expulsion de l'attaquant Timothy Weah. De son côté, l'Uruguay a passé une soirée tranquille en dominant la Bolivie 5-0 au New Jersey et s'est rapproché des quarts de finale. C'est la 14e défaite de suite de la Bolivie en Copa América. La Verde n'a plus gagné un match dans cette compétition depuis l'édition 2015 et sa victoire contre l'Équateur 3-2 en phase de poule. Elle est déjà éliminée de cette édition à la différence du Panama qu'elle va affronter lundi lors de la 3e et dernière journée du groupe C.
Athlétisme, la championne du monde du 100 mètres sera présente aux 200 mètres aux Jeux Olympiques de Paris.
L'Américaine Sha'Carri Richardson, brillante sur 100 mètres la semaine dernière, a foncé sans forcer en série du 200 mètres des sélections olympiques américaines à Eugene, dans l'Oregon, tout comme Noah Lyles. Richardson a dominé sa série en 21 secondes 99. L'Américaine de 24 ans avait décroché la médaille de bronze de la discipline aux Mondiaux de Budapest l'été dernier en 21 secondes 92. Son record, brillante vainqueur des sélections du 100 mètres samedi, Richardson fait désormais figure de favorite du 200 mètres aux Jeux Olympiques de Paris prévus du 26 juillet au 11 août. Triple champion du monde aux 100 mètres, 200 et 4 fois 100 mètres l'été dernier en Hongrie et lui aussi brillant vainqueur du 100 mètres la semaine passée, Noah Lyles s'est baladé au premier tour du 200 mètres en 20 secondes 10.
Page des sports VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Afrique du Sud, l'ANC, le Congrès national africain, semble être dans l'impasse avec son principal partenaire de coalition, l'Alliance démocratique, qui réclame des portefeuilles clés dans le prochain gouvernement. Cela retarde l'annonce attendue du président Cyril Ramaphosa sur la formation de ce gouvernement inédit. Pour comprendre les difficultés liées à la formation de ce gouvernement, Yacouba Ouédraogo a joint à Pretoria André Thomas Hausen, professeur de droit international à l'Université d'Afrique du Sud, à la retraite.
L'ANC se cache un peu derrière les 8 petits partis. Il y a des petits partis qui ont pu atteindre une place seulement dans l'Assemblée. C'est un peu des formations opportunistes qui se sont prêtées pour joindre le gouvernement d'unité nationale, le GNU, et ça sert comme argument pour réduire le nombre de postes dans le futur gouvernement attribué à la DA, second plus fort parti qui a pu obtenir 20% en tant que le ANC a obtenu 40%. L'ANC a réduit le nombre de sièges offerts au DA à seulement 5, en tant que le DA avait demandé 8.
D'aucuns disent que l'ANC tient coûte que coûte à conserver les portefeuilles stratégiques tels que la sécurité, l'économie et l'énergie, alors que la DA réclame le ministère du Commerce et de l'Industrie, par exemple. Est-ce que des discussions autour de ces postes-là ne vont pas bloquer pendant longtemps, justement, l'annonce de ce gouvernement?
Ça pourra bloquer encore quelques journées, peut-être même une semaine. L'alternative serait une coalition de l'ANC avec les petits partis, plus le parti d'extrême gauche, le EFF, le parti de la libération économique du monsieur Malema. Il y a eu des négociations aujourd'hui entre l'ANC et le EFF. Ce n'est pas tout à fait exclu parce que la température, l'atmosphère dans les négociations entre le DA et l'ANC a vraiment souffert une chute à la suite d'une lettre du président Ramaphosa dirigée au chef du parti DA. Et cette lettre était assez amère, assez brusque. Il n'y a plus une bonne relation entre les deux partis, c'est plutôt une relation hostile et difficile.
Justement, pour un gouvernement qui se veut d'union nationale, est-ce que cette difficulté à le former n'annonce pas quelque chose de pas rassurant pour la suite?
Oui, il y a des préoccupations sévères. La valeur de la monnaie nationale, du rand, de nouveau est tombée. Et il y aura pas mal d'investisseurs étrangers qui vont considérer une possible coalition entre l'extrême gauche et le ANC comme un risque sévère. Ça aussi, le président Ramaphosa doit tenir en compte. Tous les observateurs croient que lui, il ne pourra pas survivre une coalition de gauche parce que dans cette gauche, il y a un consensus que lui, Ramaphosa, devrait prendre sa retraite.
André Thomas Hausen, professeur de droit international à l'Université d'Afrique du Sud, à la retraite. Le Niger, carrefour stratégique des routes transsahéliennes, demeure au cœur des flux migratoires depuis des décennies, devenant un hub de transit vers la Libye et l'Algérie. Avec l'abrogation des lois anti-passeurs, les départs vers ces destinations se sont multipliés en 2024. Eric Manirakiza a joint Alice Ferdé, analyste Sahel du JITOC, l'Observatoire des économies illicites en Afrique de l'Ouest, au sein de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée.
Déjà, c'est important de noter que le Niger, de par sa situation géographique, c'est un pays de transit très important pour les mouvements de personnes de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de pays comme la République centrafricaine, le Tchad, le Soudan, vers le nord, donc soit vers la Libye, soit vers l'Algérie. Donc les points d'entrée au Niger sont principalement les frontières avec le Nigeria, le Bénin, et dans une moindre mesure le Burkina Faso et le Tchad. Et pour arriver au Niger, depuis leur pays d'origine, beaucoup de migrants utilisent les transports en commun, donc c'est-à-dire les bus. Donc il y a des compagnies de bus qui desservent le Niger, à partir de la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest pour atteindre les points de départ au Niger, qui sont principalement Agadez pour les départs en Libye et Tawa pour les départs en Algérie. À partir de ces villes, les migrants vont faire appel au service des passeurs qui utilisent des véhicules individuels pour voyager jusqu'en Libye ou en Algérie. Donc en termes des acteurs qui sont impliqués à partir du Niger, c'est donc les passeurs qui conduisent des véhicules, qui connaissent les routes, etc. Donc ils sont vraiment incontournables. Il y a aussi les coxeurs qui sont des sortes d'intermédiaires. Ils vont mettre en contact les passagers avec les passeurs et en quelque sorte ils vont organiser les départs.
Comment les dynamiques politiques et économiques actuelles au Niger et au Sahel influencent-elles les flux de migration et les activités de transport de migrants dans ces régions?
Moi, je dirais que le plus gros changement, là, actuellement, qui a influencé les dynamiques migratoires au Niger cette dernière année et qui a influencé en particulier l'activité de transport des migrants, c'est le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger et les dynamiques politiques, les tensions régionales que cela a engendrées. Donc, pour deux raisons. D'abord, parce que le coup d'État a provoqué la fermeture des frontières avec le Bénin et le Nigeria. Donc, la frontière du Bénin, elle reste fermée encore aujourd'hui. Celle du Nigeria, elle a réouvert en mars. Mais cette fermeture des frontières a provoqué une très forte demande de passage clandestin, surtout entre le Bénin et le Niger. Donc, on a vu le développement de passage du fleuve qui sépare les deux pays en pirogue, à hauteur de plusieurs centaines de personnes par jour qui traversaient. Ensuite, et surtout, suite au coup d'État, les nouvelles autorités militaires au Niger ont abrogé la loi qui interdisait le transport de migrants. Donc ça s'est passé en novembre et c'est sans doute l'un des développements les plus importants, je dirais, pour les dynamiques migratoires au Niger ces dernières années. Parce que tout d'un coup, le transport des migrants étrangers, qui était interdit et fortement contrôlé et puni par la loi depuis 2015, est redevenu une activité légale. Donc à Agadez, par exemple, c'est une ville qui avait été fortement impactée par cette interdiction et dont toute l'économie qui tournait autour du transport des migrants s'était effondrée post-2015. Dans cette ville, on en voit qu'elle reprend son rôle de carrefour des mouvements vers la Libye. Donc, il y a une très forte augmentation du nombre de départs d'Agadez vers la Libye en ce moment.
Alice Ferdé, analyste Sahel du JITOC, l'Observatoire des économies illicites en Afrique de l'Ouest, au sein de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Direction Anéo, à 45 km au sud-est de Lomé, dans cette ville touristique chargée d'histoire, se trouve un musée pas comme les autres. Il s'agit de l'écomusée Guindoua, un site écologique ouvert depuis 2016 pour contribuer, entre autres, à la sauvegarde de la nature et surtout perpétuer les traditions ancestrales. Reportage sur place de notre correspondante Amène Assignon.
Ouverte sur la mer, la ville d'Anéro attire par ses paysages magnifiques et des sites touristiques inhabituels, comme l'écomusée Guindoua, un musée à ciel ouvert destiné à la préservation de l'environnement et de la culture du milieu. Selon Elom Amanti, le conservateur de ce musée écologique.
L'écomusée Guindoua d'Anéro est basé sur quatre axes ou bien quatre objectifs. La sauvegarde du patrimoine naturel, la conservation de la biodiversité, la promotion de la culture africaine et enfin un centre de formation pour les jeunes.
Le site veille au maintien de la chaîne trophique et à la sauvegarde d'espèces végétales propres à la localité. Il participe également à la reconstitution de la mangrove dans le sud-est du pays. Ce lieu chargé de symboles est aussi une ouverture sur les traditions ancestrales du peuple Guin à Anéro. Selon la tradition, cet arbre géant, par exemple scientifiquement appelé acacia, est un arbre sacré qui a des vertus thérapeutiques. Pour les amoureux de la nature et de la culture, comme Romane Saint-Gré, c'est le lieu idéal pour se ressourcer.
C'est un endroit qui prime vraiment sur le naturel. C'est hyper agréable de se promener, de découvrir tant l'aspect naturel, mais aussi le côté spirituel et historique qui est vraiment recherché de ce lieu. Vraiment, donc on voyage vraiment dans les traditions et en même temps dans la préservation de la nature. C'est très très agréable.
Inspiré de l'écomusée d'Alsace en France, l'écomusée Guindoua vise à valoriser la culture africaine dans toutes ses dimensions. Un défi que s'est lancé son promoteur Anani Akpe-Wilson depuis 8 ans, sur fond propre.
Le musée, c'est les photos, c'est les objets de nos ancêtres ou bien de la culture d'un milieu, anciennement vécu surtout. Et toutes les fois que vous revenez, vous voyez les mêmes choses. Alors qu'au niveau d'un écomusée qui sous-entend le musée écologique, il est dynamique et à tout moment, on peut revenir voir autre chose. Et au-delà de cela, on vit la culture du milieu.
Le site attire chaque semaine de nombreux visiteurs de diverses nationalités pour des échanges culturels, pour des découvertes et pour vivre la culture du peuple guin. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Les chanteuses lyriques africaines sont de plus en plus nombreuses à faire carrière en Europe ou aux États-Unis et à parcourir le monde pour briller sur les plus grandes scènes d'opéra. Adriana Bignani-Lesca, cantatrice franco-gabonaise, se produit à l'international depuis 2016. Dans un entretien avec Nathalie Barge, elle explique son art qui mêle œuvres classiques, musique traditionnelle et moderne.
Il y a une difficulté de voir des chanteuses lyriques africaines directement en dehors de l'Afrique du Sud où on en voit un peu plus. L'Afrique centrale francophone, c'est un peu plus compliqué sur les scènes internationales. Néanmoins, nord-américain, on voit un peu plus, où il y a un peu plus d'opportunités aux États-Unis et un peu partout ailleurs. Pour avoir une voix plus ou moins impeccable, c'est le repos physique, mental et vocal. Et d'échauffer aussi sa voix. On est assez sensible, nous les chanteurs, à la pollution, le pollen, tout ça, lorsqu'on le prend, ça peut avoir un impact assez grandiose pour la voix. Donc il faut se préserver au maximum, moins fréquenter les gens pour éviter de prendre les microbes des uns et des autres. Encore une fois, maestro. Qu'est-ce qui me plaît dans l'humour ? C'est le non-vieillissement, le partage et l'amour. Parce que dans l'humour, lorsqu'on rit tous ensemble, on partage l'amour et on vieillit moins. Voilà ce qui me plaît dans l'humour. Moinevol, d'Annie Flore Batilili, dans le prélude de Bach, est une merveille. C'est une mère qui berce son enfant. Il y a tellement de douceur dans cette mélodie et ça m'emporte tout le temps. J'ai l'impression de me retrouver au village. Donc voilà, ce symbole déjà qui est un symbole du Gabon, hein, la mère qui allaite son enfant, et c'est assez fort de pouvoir l'interpréter lorsque l'occasion se présente. Cette autre partie de moi, c'est une musique, on va dire, que je compose inspirée de ma musique traditionnelle, plus ou moins moderne également, et chantée en pounou. Le nom aussi est différent de mon nom de scène dans le domaine lyrique. C'est Arela Koyaba.
Adriana Bignani-Lesca, accepteriez-vous de nous offrir une petite phrase lyrique pour immortaliser votre passage à VOA Afrique ?
Oui.
Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.